vous l'avez compris, avec Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Une baisse en trompe-l'œil, le chômage a de nouveau reculé en France en octobre pour le sixième mois consécutif, mais l'emploi n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la crise sanitaire et les plans sociaux se multiplient. Confusion autour de la jauge autorisée pour la reprise des cultes religieux, 30 personnes par office, avait dit Emmanuel Macron hier soir, mais il aurait promis aux catholiques de revoir à la hausse ce chiffre. Problème, le gouvernement ne confirme pas cette information aujourd'hui. Emmanuel Macron qui a aussi expliqué qu'il fallait être plus contraignant dans l'isolement des malades de la Covid. La question se pose dans toute l'Europe avec des réponses contrastées, nous expliquera Élise Delève. En Hongrie, des médias indépendants tentent de s'organiser face à Viktor Orban. Le Premier ministre populiste est accusé de contrôler le paysage médiatique hongrois. Ce sera le dossier de notre journal avec Florence Labruyère. Et puis, on vient de l'apprendre, Diego Maradona est mort. La star du football argentin a succombé à une crise cardiaque. Il avait 60 ans. Ce sont des chiffres positifs qu'il faut aborder avec la plus grande prudence. Le chômage a de nouveau baissé en octobre en France. 3 800 000 personnes sans activité le mois dernier. Selon le ministère du Travail, 60 000 chômeurs en moins. Il s'agit de la sixième baisse mensuelle consécutive. Le recul a commencé en mai à la sortie du premier confinement. Anne-Laure Jumet, bonsoir.
Bonsoir.
Il faut être prudent car le chômage reste supérieur à son niveau de février, c'est-à-dire avant la crise sanitaire.
Oui, à un niveau encore supérieur de 10% à celui enregistré en février, car avec la crise, nombre de salariés en CDD ou en intérim n'ont pas vu leur contrat renouvelé. Cela dit, ce qui frappe, c'est cette décrue depuis 6 mois, depuis le déconfinement donc. En octobre, la catégorie A qui compte les demandeurs d'emploi qui n'ont eu aucune activité a vu ses effectifs baisser d'1,6%. Ça représente 60 100 inscrits en moins. Une baisse qui s'explique en premier lieu par des transferts vers les autres catégories, les B et C qui comptabilisent les demandeurs d'emploi qui travaillent plusieurs heures dans le mois. Et il n'y a pour l'instant pas de réelle hausse des entrées à Pôle emploi. Le chômage partiel joue son rôle d'amortisseur, ce qui n'empêche pas les plans sociaux, mais ça ne se voit pas encore dans les statistiques, car il y a un décalage dans le temps entre les annonces et la mise en œuvre effective d'un plan social.
Et d'ailleurs, Anne-Laure, les annonces de suppression d'emplois se sont multipliées cette semaine. Danone, Total, Vallourec, Mars et maintenant IBM. Selon les syndicats, le géant américain de l'informatique pourrait supprimer un quart de ses effectifs en France.
Oui, entre 1180 et 1385 postes. La direction ne commente pas ces chiffres. Un plan qui s'inscrirait dans le cadre d'une réorganisation mondiale. IBM souhaite se recentrer sur ses activités les plus rentables et notamment l'intelligence artificielle et l'informatique dématérialisée, ce qu'on appelle le cloud. D'après les syndicats, il y aura un plan de départ volontaire, mais s'il n'y a pas assez de candidats, les licenciements seront inévitables. Voilà qui s'ajoute en effet à la longue liste des plans sociaux de ces derniers mois, avec rien que cette semaine, les annonces de Danone, Total, vous le disiez, et l'épilogue pour le spécialiste de la mode pour enfants Kidiliz, propriétaire des marques Z, Absorba ou encore Catimini. Une reprise très partielle qui aboutira au licenciement de près de 1000 personnes.
Anne-Laure Jumet, merci. Cette information importante annoncée par les syndicats, le Conseil d'État vient de déclarer illégal l'essentiel de la réforme de l'assurance chômage. Les syndicats qui avaient saisi la plus haute instance administrative pour contester cette réforme. Parmi les annonces d'Emmanuel Macron hier soir, il y avait la reprise des cultes religieux dès samedi dans le cadre de la première étape de l'allègement du confinement. Le président a fixé une jauge, 30 personnes maximum seront autorisées à suivre un office chez les catholiques. La conférence des évêques de France a aussitôt fait savoir que cette jauge était inacceptable. Pierre Neveu, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Emmanuel Macron aurait décroché son téléphone hier soir pour expliquer à la hiérarchie catholique qu'il y avait eu un malentendu. Pierre, le diable se cache toujours dans le détail.
Et on peut dire qu'ils ont été surpris hier soir, les représentants de l'Église de France, surpris d'apprendre que la jauge pour la réouverture des lieux de culte serait fixée à 30 personnes, quelle que soit la superficie des édifices. Et cela n'était visiblement pas ce qui avait été envisagé par l'Église de France lors d'une ultime réunion préparatoire lundi dernier avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, Vincent Némon, le porte-parole de la conférence des évêques de France sur France Info.
30 dans une cathédrale ou 30 dans une petite chapelle, vous voyez, ça veut rien dire. Donc il vaut mieux être sur une proportion, nous disons un tiers ou 4 mètres carrés de vide autour de chaque fidèle, parce que là, on est sûr qu'on respectera les consignes sanitaires. C'est ça qui est important pour nous aussi. Hein.
Et selon le président de la Conférence des évêques de France, le malentendu se serait directement réglé par téléphone hier soir avec le président Emmanuel Macron. L'Église de France expliquait d'ailleurs ce matin qu'une jauge réaliste allait être définie d'ici demain avec Matignon pour une mise en application dès le week-end prochain.
Si dans les salles de spectacle, il y a une règle de proportion, nous vous demandons qu'elle soit aussi appliquée pour nous. Donc la question, c'est de savoir jusqu'où on peut relâcher un petit peu les taux, tout en restant raisonnable et tout en restant focalisé sur la lutte contre l'épidémie.
Alors, s'il y a bien des discussions en cours pour préparer la sortie de ce confinement, c'est à l'horizon des célébrations de Noël. De sources gouvernementales, on indique ce soir que le calendrier sera bien respecté. Il n'y aura pas de nouvelles jauges dans les lieux de culte d'ici la mi-décembre. En somme, la parole du chef de l'État est sacrée.
Pierre Neveu, merci. Un autre point reste à éclaircir dans l'intervention d'Emmanuel Macron. Le président a insisté sur le nécessaire isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante, dit le chef de l'État, qui en appelle à un débat démocratique sur la question. Jean Castex, le Premier ministre, en dira peut-être davantage demain dans sa conférence de presse destinée à détailler les mesures gouvernementales. Un peu partout en Europe se pose cette question de l'isolement des malades de la Covid et les réponses sont différentes, Élise Delève.
Partout en Europe, c'est le même casse-tête. On ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne contaminée, alors c'est la menace d'une amende ou même pire qui fait office de stratégie. En Belgique, si une personne contaminée ne respecte pas sa quarantaine, elle risque entre 500 et 4000 euros d'amende. C'est à peu près le même tarif qu'en Italie, avec une mesure supplémentaire en Vénétie. Si un employé infecté se rend quand même au travail, c'est 1000 euros d'amende. Et s'il expose un de ses collègues, c'est 1000 euros pour son employeur. Dans ces deux pays, les contrevenants risquent aussi des peines de prison allant de 6 jours à 18 mois. La prison, c'est aussi une menace agitée en Grèce contre ceux qui violent leur quarantaine de façon répétée. 5 ans s'ils ne contaminent personne lors de leur sortie interdite, jusqu'à 15 ans s'ils provoquent la mort d'une personne à qui ils ont transmis le virus, et la prison à vie s'ils entraînent la mort de plusieurs personnes. En Espagne, le gouvernement veut frapper fort pour empêcher les gros rassemblements. Si un Espagnol contaminé se rend à une fête qui rassemble de nombreux invités, il risque jusqu'à 600 000 euros d'amende, idem s'il se rend auprès de personnes vulnérables. En Asie, les autorités vont beaucoup plus loin. À Taïwan, par exemple, les malades sont tracés par les policiers via leur smartphone. À Singapour, dès le mois de décembre, le traçage sera obligatoire pour tous, malades ou non. Et pour ceux qui n'accepteraient pas l'application car trop lourde en batterie ou trop compliquée, le gouvernement délivre des jetons connectés en Bluetooth. Jetons qu'il faut avoir sur soi dès qu'on sort de la maison. Les autorités assurent que cela leur permet de retrouver tous les cas contacts en un jour et demi contre 4 auparavant.
Élise Delève, merci. Face à la crise sanitaire qui met à genoux les économies européennes, le Royaume-Uni révise son budget. Priorité à l'emploi et aux services publics, a expliqué aujourd'hui le chancelier de l'échiquier Rishi Sunak en présentant les orientations budgétaires du gouvernement de Boris Johnson. Le ministre des Finances a annoncé une forte baisse de l'aide britannique au développement. Maxence Peignet nous appelle de Londres.
L'urgence économique due à la pandémie ne fait que commencer. C'est avec ce sombre constat que le chancelier britannique Rishi Sunak a présenté son plan de dépenses pour l'année à venir. Ses propres chiffres annoncent le pire déclin pour l'économie du pays en 3 siècles, avec une contraction du PIB de plus de 11%. D'ici le milieu d'année prochaine, le chômage devrait grimper à 7,5% et toucher 2 600 000 Britanniques. Pour limiter la casse, Rishi Sunak a promis de nouveaux investissements. Plus de 3 milliards d'euros pour la santé, autant pour les collectivités locales, 2 milliards pour les transports et 250 millions pour les sans-abri. Le total des dépenses depuis le début de la crise sanitaire devrait atteindre 315 milliards d'euros. Afin de financer cette politique, le gouvernement va emprunter à des niveaux inégalés en temps de paix. En contrepartie, une baisse de l'aide aux pays étrangers a été annoncée, ainsi que le gel des salaires de millions de fonctionnaires, à l'exception du personnel médical. Et la situation peut encore empirer selon une note interne du gouvernement qui a fuité peu avant ces annonces. le risque sera celui d'une crise économique systémique quand le Brexit entrera dans l'équation en début d'année.
Maxence Peignet, l'un de nos correspondants au Royaume-Uni. C'est un moment clé dans le procès de l'attentat raté du Thalys. La cour d'assises spéciale procède aujourd'hui à l'interrogatoire du principal accusé, Ayoub El Kazani. En août 2015, ce djihadiste marocain avait tenté de commettre un massacre dans le train Amsterdam-Paris, mais des passagers l'avaient désarmé et maîtrisé. Ayoub El Kazani agissait sur les instructions d'Abdelhamid Abaoud, le cerveau des attentats du 13 novembre 2015, abattu quelques jours plus tard à Saint-Denis. Le compte-rendu d'audience de Florence Turm.
J'ai bu un café, je suis montée dans le train et j'ai commencé à chercher les gens, ceux que Abou Omar m'avait indiqué pour les tuer. Chacun était à sa place, les femmes, les hommes âgés, puis j'ai vu les Américains et là j'ai hésité. Ayoub El Razani raconte avec calme et détachement, sans émotion apparente, t-shirt et veste blanche, une ceinture de maintien autour de la taille, cheveux noirs ramassés en catogan. Il affirme qu'il ne voulait pas tuer des civils, qu'Abdelhamid Abaoud, alias Abou Omar, lui avait désigné des cibles à abattre, des militaires américains et des membres de la Commission européenne qu'il trouverait en première classe. Thèse contestée par l'accusation. Je suis partie aux toilettes, poursuit l'accusé, main croisée devant lui, précis, posé. Il décrit son état. Je vais tuer des gens, c'est comme si j'allais me jeter dans un ravin. Puis vient le face-à-face avec Marc Mougalian, le passager qui lui arrache sa kalachnikov. Aujourd'hui assis au premier rang de la salle, il tient la main de sa femme. J'ai tiré vers sa main, soutient Ayoub El Razani. Marc Mougalian a été atteint d'une balle dans le dos, ressorti par le cou qui a failli le tuer. Le terroriste explique avoir alors mis Spencer Stone, l'un des militaires américains, en joue. J'ai vu son visage, c'est dur de tirer, je n'ai pas pu, répète-t-il. La bataille s'engage et l'accusé reprend avec la même intensité que les victimes venues témoigner. Je suis passé entre deux étapes psychologiques, celui où j'allais tuer et celui où je vais me faire tuer. J'ai senti que ma tête allait exploser, je pensais que j'allais mourir. Il parle encore d'hypnose, d'emprise, de l'influence d'Abaoud. Le président recadre le débat, mais à cette époque, vous vous considériez comme un combattant de l'État islamique. Oui.
Florence Turm à la cour d'assises spéciale de Paris avec les moyens techniques de Raymond Albouy. Le Conseil d'État a rejeté aujourd'hui la requête de Baraka City, l'ONG islamiste dont le gouvernement a prononcé la dissolution après l'assassinat de Samuel Paty. Le juge des référés a estimé que cette dissolution était justifiée car le président de l'association Idriss Siamedi avait tenu des discours incitant à la discrimination, à la haine ou à la violence. Baraka City veut contester devant la Cour européenne des droits de l'homme cette dissolution. Par ailleurs, le Conseil d'État a validé la fermeture administrative de la mosquée de Pantin pour 6 mois. La page Facebook de la mosquée avait relayé un message de haine et de menace à l'encontre de Samuel Paty. Le dossier de ce journal nous emmène ce soir en Hongrie. En 10 ans de pouvoir, le premier ministre populiste Viktor Orban a pu remodeler le paysage médiatique hongrois. L'audiovisuel public est accusé d'être une machine de propagande au service de son parti, le Fidesz. Et les milieux d'affaires proches de Viktor Orban rachètent peu à peu les médias privés. Dernier exemple en date, le rachat d'Index, un journal en ligne qui affiche la plus forte audience numérique du pays, juste après Google et YouTube. Dans ce paysage verrouillé, quelques médias indépendants font de la résistance. Un dossier signé Florence Labruyère, notre correspondante à Budapest.
Des médias publics sous influence, c'est ce que révèle le reportage d'un journaliste de Radio Free Europe. Akos Keller Alant a eu accès à des enregistrements réalisés en secret pendant une réunion à la télévision publique hongroise. On y entend un responsable donner des instructions très claires.
On entend le rédacteur en chef dire aux journalistes « Ici, ce n'est pas l'opposition qu'on soutient ». J'ai vu aussi des emails de la direction. Les journalistes n'ont pas le droit de parler des LGBT, par exemple. Et pendant plusieurs jours, la télé publique n'a pas donné les résultats des élections américaines, comme les médias d'extrême droite aux États-Unis. Quant à la pandémie, eh bien, les journalistes ont reçu l'ordre de montrer qu'en Hongrie, la situation est moins grave qu'ailleurs en Europe.
Mais pour Zoltán Kiseli, un politologue proche du gouvernement, la liberté de l'information existe bel et bien en Hongrie.
La liberté de la presse n'est pas en danger. Et il y a plein de journaux, de télévisions, de sites internet. Et n'oublions pas que les médias changent. Les blogs, la chaîne YouTube ont de plus en plus d'influence. Les médias traditionnels comme la télé suscitent moins d'intérêt.
Mais ces médias privés sont peu à peu rachetés par des hommes d'affaires proches de Viktor Orban. Cet été, le clan au pouvoir a mis la main sur Index, premier journal web du pays connu pour son indépendance de ton. Le rédacteur en chef d'Index a été limogé. Conséquence, toute la rédaction a démissionné. Les 70 journalistes viennent de lancer un nouveau site grâce au financement participatif. Vera Munk est la rédactrice en chef.
So I think when we quit...
Quand nous sommes partis tous ensemble, c'est là que les Hongrois ont compris qu'ils devaient payer de leur poche s'ils voulaient un journalisme objectif.
Adieu Index, bonjour Telex, c'est le nom de ce nouveau site web dont les journalistes sont les seuls propriétaires.
We crowdfunded, we collected donations, and in the first month we collected 1 million euros.
On a lancé un appel aux dons et en un mois on a reçu 1 million d'euros. C'est beaucoup d'argent.
So that's why I mentioned that people started to believe, because otherwise.
Ça montre que les lecteurs ont compris que c'est la seule solution. En Hongrie, on ne peut pas compter sur le revenu publicitaire. Le premier annonceur, c'est l'État. Et l'État n'achète pas de pub aux médias indépendants.
Where they spend money and they don't give to other ones.
Telex est le premier média hongrois à être entièrement financé par ses lecteurs. Il a déjà 500 000 de visiteurs uniques par jour. Certes, la rédaction a moins de moyens techniques qu'auparavant, mais elle espère que les dons continueront pour financer l'installation d'un studio de télévision.
Florence Labruyère à Budapest, dossier à retrouver sur franceculture.fr. L'Éthiopie est-elle à la veille d'un embrasement militaire? C'est ce soir qu'expire l'ultimatum du gouvernement aux rebelles du Tigré, cette région du nord du pays qui refuse la tutelle d'Addis Abeba. Le premier ministre Abiy Ahmed exige la reddition des dirigeants du TPLF, le Front de Libération du Peuple du Tigré, faute de quoi l'armée éthiopienne lancera l'assaut sur la capitale régionale Mekele. Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix, est donc prêt à la guerre pour mater la rébellion. L'analyse du chercheur René Le Fort, spécialiste de la Corne de l'Afrique, il se trouve actuellement à Addis Abeba.
C'est le deuxième ultimatum qu'il fait, il expire aujourd'hui. Le deuxième ne semble pas avoir eu plus d'effet que le premier, puisque du côté tigréen, ce qu'on entend, c'est « nous continuons de combattre sous une forme ou sous une autre ». L'armée fédérale de Addis Abeba avance très vite au Tigray, mais elle ne contrôle apparemment que les villes et les grands axes. Pour autant qu'on le sache, les campagnes restent contrôlées par le Front populaire de libération du Tigré. Donc on risque de se diriger vers une guerre longue avec tous les problèmes humanitaires que ça pose et qui deviennent de plus en plus aigus. D'un côté comme de l'autre, les préconditions posées pour ce dialogue sont inacceptables par l'autre partie. Donc on ne voit malheureusement, pour le moment en tous les cas, une continuation de la guerre et une crise humanitaire très grave. La stratégie du Front populaire de libération du Tigré, c'est plutôt de basculer ses forces du côté de la guérilla que de mobiliser ses forces pour s'opposer à l'armée régulière fédérale.
Quant à la population, elle fuit en masse?
D'après ce qu'on sait, elle fuit en masse. Mais je répète, il n'y a personne actuellement au Tigré qui est une liberté de mouvement lui permettant d'observer ce qui se passe d'un côté comme de l'autre.
Donc c'est un conflit à huis clos?
Totalement.
Le chercheur René Lefort répondait à Omar Waman. Je reviens sur cette information donnée il y a moins d'une heure par les médias argentins. La mort de Diego Maradona, la star du football argentin, a succombé à un arrêt cardiaque aujourd'hui. Il avait 60 ans. Diego Maradona avait conduit l'Argentine à la victoire en Coupe du Monde en 1986. Caroline Vic nous appelle de Buenos Aires.
Oui, vous imaginez que la nouvelle a bien sûr ému et choqué même toute l'Argentine. À la télévision, les journalistes ont annoncé la nouvelle de la mort de Diego Maradona, presque la voix cassée par les sanglots, perplexe et les larmes aux yeux, et des pleurs qu'on retrouve sur tous les visages dans la rue et dans les messages sur les réseaux sociaux. Une nouvelle qui s'est répandue bien sûr comme une traînée de poudre. La tristesse se mêlant à l'admiration envers ce génie, ce rebelle qui aura vécu une vie intense, de grande gloire et d'énormes souffrances, l'alcoolisme, la drogue, une vie privée agitée. Un homme passionné, très populaire, excessivement proche des gens et aux convictions politiques très fortes. On se souvient d'ailleurs qu'il était l'ami personnel de Fidel Castro, qui, signe du destin, est d'ailleurs décédé il y a 4 ans, jour pour jour, un 25 novembre, comme aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, le président Alberto Fernandez a déjà décrété 3 jours de deuil national. Déjà de son vivant, il était une légende, un véritable dieu. Aujourd'hui, on s'attend à des déplacements massifs jusqu'à sa maison et peut-être même des funérailles nationales.
Caroline Vic, notre correspondante à Buenos Aires, sur l'émotion du peuple argentin après la disparition de Diego Maradona. Retour en France avec le temps demain, largement ensoleillé sur la plupart des régions, mais le ciel sera couvert et pluvieux de la Bretagne aux Flandres maritimes, en passant par le Cotentin. Les températures minimales restent fraîches, de moins 3 à 13 degrés du nord-est à la Méditerranée. L'après-midi, il fera entre 10 et 17 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.